Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. À propos des studios de Micro Rebelle, notez bien le fait que nous avons déménagé. Nous sommes toujours à Liévin, mais en centre-ville, au 13 rue Victor Hugo, à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta. Notez bien cette adresse et n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM sur 99.9 et de Radio Plus 104.3. Je suis donc Lucien, bénévole militant à Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc, également de Micro Rebelle. Luc est salarié à Micro Rebelle.
Bonjour à toutes et à tous.
Aurélie est également parmi nous. Aurélie fait partie des jeunes de Micro Rebelle. N'hésitez pas à les écouter dans notre émission « L'actualité vue par les jeunes ». Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et enfin notre invité cette semaine, il s'agit de Jean Létocard, infirmier anesthésiste, militant syndicaliste CGT et adjoint communiste à la mairie d'Avion. Nous vous proposons sans attendre l'agenda social et culturel des jours à venir. Il a été préparé par Aurélie.
Du 13 au 19 octobre a lieu une exposition sur Martin Luther King au centre Saint-Paul, rue Montpensier à Hénin-Beaumont. Donc cette exposition s'interroge sur ce qu'il reste du message de celui-ci et de son combat pour l'égalité des droits 50 ans après sa mort. Donc elle aura lieu du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h. Donc l'entrée y est gratuite. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 07 87 88 52 44. Le lundi 15 octobre à 18h30, à la salle des fêtes de Annay-sous-Lens, aura lieu une réunion d'information publique concernant les compteurs communicants Gaspard. Il s'agit de la première réunion concernant ces compteurs. GRDF y sera représenté, ainsi que le collectif ACAD, qui est contre les compteurs communicants dans l'Artois et le Douaisy. Le mardi 16 octobre, à 20h, on se retrouve au cinéma Les Étoiles de Bruet-Labussière pour la diffusion en avant-première du film Capharnaüm, en sous-titré français au tarif unique de 5 euros. Donc le synopsis est le suivant. À l'intérieur d'un tribunal, Zayn, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?», il répond « Pour m'avoir donné la vie ». Le film retrace l'incroyable histoire de cet enfant en quête d'identité qui cherche à se rebeller contre la vie qu'on cherche à lui imposer. Il aura un pot dès 19h30, suivi de la projection du film à 20h, en partenariat avec l'Office de la jeunesse de Bruet-Labussière et de la communauté de l'agglomération Béthune, Bruet, Bruet-Artois, Lys-Romane. Donc pour plus d'informations, appelez-le les 03 21 01 75 25. Le mercredi 7 octobre aura lieu à 14h, au chevalement rue des Frères Lumière, près du cinéma Pathé à Liévin, la marche pour la dignité. lors de la journée internationale de lutte contre la grande misère. Donc celle-ci y débutera dès 14h30 précisément, durant laquelle aura lieu une visite de l'église de Saint-Amé, du parc aussi du parc du Louvre-Lens, et une présentation de la statue de Françoise Petrovitch. Puis ensuite, il y aura une visite de l'exposition Tenir de celle-ci. Donc un goûter aura de même lieu juste ensuite, et le retour s'effectuera aux alentours de 17h. Le même jour, on se retrouve à 18h à la salle Sueur à Méricourt, située à une centaine de mètres de la mairie, pour une réunion d'informations concernant les compteurs communicants Linky, notamment avec le collectif ACAD contre les compteurs communicants dans l'Artois et le Douaisis. Il y aura aussi à 18h cette fois-ci à la faculté Jean Perrin de Lens, une conférence concernant l'affaire de Brouet en Artois de 1972. Donc c'est une affaire qui a secoué le bassin mini à l'époque et qui a créé un climat de violence contre les notables du Brouaisis et une énorme agitation, tant judiciaire que politique, notamment par l'inculpation de suspects finalement innocentés, mais aussi par des manifestations et des défilés maoïstes pendant des semaines. Donc cette affaire qui n'a, on le rappelle, jamais été résolue et qui a été classée sans suite en 1980 et le crime prescrit en 2005. Donc l'intervenant en fait de cette conférence ne sera autre que Daniel Bourdon, qui était l'ancien enquêteur de la brigade anticriminalité. Donc il est aujourd'hui écrivain en fait et auteur de deux ouvrages sur le sujet. Donc l'un s'appelle Brigitte, histoire d'une contre-enquête, paru en 2017, et l'autre Brigitte acte 2 en 2018. Donc il a repris cette enquête en 2015 et a, semble-t-il, selon lui, trouvé le coupable. Donc c'est pour ça qu'a lieu cette conférence. Donc petit récapitulatif au cas où vous n'avez pas noté, vous avez oublié. Donc cela se passe donc le 17 octobre à la faculté Jean Perrin, rue Jean Souvraz à 18h, en amphi S25. Donc par contre, inscrivez-vous rapidement par mail à mineurdumonde@univ-artois.fr. Puis au LAG à Liévin, toujours le mercredi 17 octobre, décidément il y a beaucoup de choses ce jour-là, aura lieu à 19h une réunion des objectrices et objecteurs de croissance. Donc il s'agit bien évidemment d'une réunion ouverte à tous et à toutes. Le jeudi 18 octobre, à la maison Nicodème à Lens, au 9 rue Denis Diderot, aura lieu la présentation du livre de Paul Masson intitulé « Chemin mémoire » de 18h30 à 20h30 avec la lecture de quelques extraits de son livre. Le vendredi 19 octobre aura lieu à 20h30 la représentation du spectacle intitulé « Les gens d'ici » à l'espace culturel Jean Ferrat à la salle Louis Aragon située à Avion, sur la thématique des migrants, de l'inconnu et des rencontres qui peuvent changer le rapport à l'autre. Donc l'entrée est gratuite sous réservation au 03 21 79 44 89 et la séance est tout public dès 10 ans. Enfin, le samedi 20 octobre, au parc du Louvre-Lens, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la grande misère et de la pose de la statue créée par Françoise Petrovitch dans ce même parc, ont lieu des ateliers créatifs, des visites du musée et particulièrement de l'exposition de celle-ci, intitulée « Tenir », ainsi que des chorales, des arbres à témoignages et des ateliers de contes. Le même jour, dès 19h, au LAG à Liévin aura lieu la fête au LAG. Donc à partir de 19h, il y aura un apéritif politique et dînatoire. À 20h30, un concert avec Black Sheep. Et à 22h, un karaoké à paillettes autogéré.
Eh bien, merci Aurélie pour cet agenda social et culturel. Je vous propose d'enchaîner sur une petite revue de presse, hein, une revue de presse locale. Tout d'abord, dans La Voix du Nord, on a sélectionné une petite brève hein, que je vous cite presque intégralement. Martine Aubry a perdu une bataille sur un sujet qui devrait être au cœur des municipales. Le tribunal administratif a suspendu l'énorme projet de construction de bureaux, de logements et d'une piscine olympique sur la friche Saint-Sauveur, au cœur de la capitale des Flandres. Au sujet, fin de citation, donc je reprends la parole en direct, au sujet de la friche Saint-Sauveur, je ne peux qu'inviter nos auditrices et auditeurs à écouter ou réécouter l'interview des militantes et militants, Camille et Claire, que nous avons diffusée dans Micro-Rebelle Hebdo le 7 septembre de cette année 2018. Ils s'y expriment contre le bétonnage de la friche Saint-Sauveur et évoquent justement l'action en justice que retrace la Voix du Nord. On peut penser que cette affaire n'est pas terminée, mais en l'état, c'est sans conteste une bonne nouvelle pour le collectif. Dans La Voix du Nord et dans L'Avenir de l'Artois, deux articles concernent la manifestation à Lens samedi dernier contre les compteurs Linky. Aurélie a évoqué dans son, dans son agenda les différentes mobilisations et réunions publiques. Donc samedi dernier, il y avait 50 opposants au Linky, selon La Voix du Nord, et une petite centaine selon L'Avenir de l'Artois. Ce rassemblement à Lens était précédé par des rassemblements locaux devant les mairies du bassin minier. L'objectif de cette journée visait à ce que les personnes qui ont le compteur Linky puissent faire marche arrière et retrouver leur ancien compteur. D'une manière générale, ce sont des personnes qui n'étaient pas informées ou qui se sont fait abuser par Enedis, ou encore, pour de nombreux cas, des personnes qui ont cédé au chantage d'Enedis. Des cahiers de doléances ont donc été ouverts et la mobilisation continue pour que Enedis leur remette leur compteur d'origine, compteur non communicant, tout beau, tout propre. Micro-Rebelle a participé à plusieurs rassemblements ce samedi 6 octobre et je vous propose une première écoute. On est devant la mairie de Los Angeles et nous tendons notre micro à Paul. Paul, on est au rassemblement à Los Angeles, au rassemblement réalisé par le collectif ACAD contre les compteurs communicants. Et à l'occasion de ce rassemblement, Paul, je vous pose une question. Est-ce que vous avez le compteur Linky et comment ça s'est passé?
Oui, actuellement j'ai le compteur Linky que je refusais, puisque j'avais mis dans le boîtier du compteur une petite lettre disant « courrier compteur Linky non désiré ». Malgré cela, un poseur est venu, a ouvert le boîtier du compteur et puis il l'a posé. Quand mon épouse est arrivée un peu tardivement, le compteur, je crois, était déjà posé. Moi, je n'étais pas là. Et elle lui a demandé de rester parce que j'étais beaucoup plus apte à essayer d'avoir des commentaires avec lui pour savoir pourquoi il me changeait le compteur. Le gars s'est sauvé. J'ai essayé je suis arrivé un peu tard, je l'ai suivi et j'ai voulu le bloquer dans une rue, chemin des Croisettes. Et suite à cet incident où j'ai voulu le bloquer, eh bien, j'ai même été appelé au commissariat et j'ai eu un délit de fuite pour le fait que j'ai bloqué son véhicule et j'ai dû déposer, enfin il y a eu un dépôt de plainte parce que je m'opposais à ce que le monsieur me pose le compteur. J'étais absolument contre.
Paul, vous êtes un terroriste quoi?
Pratiquement oui, et je peux vous dire que j'ai dû, puisque j'ai refusé de noter ce que un adjudant m'avait posé des questions, etc. Il m'avait fait un petit laïus sur un papier, je n'ai pas signé. J'ai dû poser mes mains, tous mes doigts, mes paumes de main, etc., main gauche, main droite, comme un vrai délinquant. Alors que délit de fuite, c'est faux, puisque le monsieur connaissait là où j'habitais, il avait déjà changé mon compteur. Il connaissait mon numéro de téléphone, puisque le commissariat m'a appelé par ce numéro de téléphone. Je n'ai pas compris. Et il avait dit que j'ai rayé sa voiture, c'est absolument faux également. Je m'étais mis à une certaine distance pour empêcher qu'il puisse rentrer dans l'automobile. Mais en fin de compte, il a pu passer par la porte côté opposé conducteur. Et puis, du coup, donc, je suis parti, c'est vrai, mais ce n'était pas un délit de fuite. Mais vous voyez, je suis vraiment...
C'est choquant, quoi.
C'est absolument choquant. Bon, à mon âge, plus de 70 ans, septuagénaire, d'aller au commissariat, de passer encore un peu, il me mettait les mains derrière le dos avec des menottes.
Eh bien, on continue toujours dans cette parenthèse à l'intérieur de la revue de presse à évoquer le rassemblement du 6 octobre contre les compteurs communicants. Après Los Angeles, on est maintenant à Lens, où plusieurs manifestants et manifestantes ont convergé depuis leur propre ville. Nous sommes avec Bernard du collectif d'Avion contre les compteurs. Bien, donc à ce rassemblement contre les compteurs Linky, je suis avec Bernard du collectif d'Avion. Alors le collectif d'Avion qui avait une belle délégation ce matin devant la mairie de Lens. Alors Bernard, est-ce que tu pourrais pour nos auditrices et nos auditeurs retracer un petit peu votre histoire à Avion? comment ça s'est passé? Comment ce collectif s'est constitué? Sur quelle base et qu'est-ce que vous faites?
Bon, nous sommes d'abord réunis, il y a eu des séances publiques qui ont été faites par le maire d'Avion, de manière à savoir le ressenti des avionnaises et des avionnais. Suite à ça, donc automatiquement, on a eu une rencontre qui a été faite le 29 août dernier devant chez Enedis, et là on a eu un refus total de rencontre avec les représentants de chez Enedis. Bien sûr, ils nous ont dit une fois qu'on s'est quitté qu'ils nous auront revus. Les dates, on attend toujours. Bon, suite à ça, donc on a donc le maire a donc laissé de mettre en place un groupe de travail qui se réunit donc le mardi et le jeudi. Le mardi, c'est de 17h à 19h. Donc là, on a les actifs. Et le jeudi, c'est le jour du marché d'avion. Et là, on a beaucoup de monde. Et ça, c'est un peu tout le monde, quoi, des retraités, des actifs qui sont présents de 9h30 à 11h30.
Alors justement, lors de ces permanences et puis lors de vos rencontres à Avion, qu'est-ce que tu dirais comme retour? Qu'est-ce qui mobilise les gens? Qu'est-ce qui les motive dans cette affaire de Linky? Des problèmes de santé, des problèmes de fichage, des problèmes d'emploi, des problèmes d'environnement. Qu'est-ce que disent les gens?
Qu'est-ce que disent les gens? Pourquoi changer un compteur qui est très performant, qui tourne encore bien, et nous imposer un compteur qui, franchement, il y a des problèmes sur la santé pour moi. Pour moi, là-dessus, la santé, il faut que Enedis puisse nous rencontrer le plus vite possible, parce que nous sommes là dans un esprit constructif et non pas, nous ne sommes pas là pour critiquer systématiquement. On n'est pas là pour critiquer. On est là pour discuter. Et nous avons une discussion ouverte, le groupe d'Avion, et nous souhaitons qu'Enedis ait une discussion ouverte à notre niveau et non fermée comme on a pu le constater jusqu'alors. Hein, ouvrons la discussion, c'est le souhait d'Avion. Bon, le compteur Linky, on peut dire également qui gêne également. On peut dire que c'est une sorte de flicage. Bon, moi je personnellement et le groupe également, nous lisons de différentes presses. Nous voyons 60 millions des consommateurs qui viennent parler du compteur Linky. Je mettrai en avant le journal Aujourd'hui en France, qui est un journal national. Et puis après, bon, bien sûr, les journaux régionaux, la Voix du Nord, et puis d'autres que je ne cite pas, mais qu'on verra, qui vont parler du compteur Linky dans les prochains jours.
Eh bien, je l'ai dit en introduction de ce micro-rebelle hebdo, hein, notre invité aujourd'hui, c'est Jean Letocard, qui est notamment adjoint communiste à la mairie d'Avion. Alors Jean, sur cette affaire de compteur Linky, c'est une belle mobilisation à Avion, et comment tu vois ça?
Oui, c'est à Avion une belle mobilisation. Bernard, qu'on vient d'entendre, est très modeste, hein. C'est eux qui sont venus nous voir, hein. C'est eux qui sont venus nous voir avec un dossier qui était extrêmement bien construit. Et nous, on ne s'attendait pas à ce qu'on vienne nous rencontrer pour dire attention, le compteur Linky est aux portes de la commune, parce qu'effectivement, c'était déjà arrivé chez quelques personnes, mais Enedis s'était bien gardé de prévenir les municipalités qu'ils arrivaient avec ce compteur. Alors effectivement, ça pose des gros problèmes, hein. Le dernier en date, et c'est un vrai scandale, c'est qu'on nous avait dit que ça serait jamais possible, que la loi ne l'autorisait pas, etc. Et puis on se rend compte qu'il y a des familles qui sont coupées d'électricité à distance parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes. Et voilà, comme ça on traite la misère avec deux coups de clavier, et puis ça passe par les ondes, et puis voilà, la misère reste dans la maison. Il n'y a même plus une personne, un individu qui se rend au domicile des gens pour voir un peu ce qui leur tourne. Mais il y a tout un tas de raisons qui sont entendables, qui sont valables. Le problème, c'est que le collectif n'arrive même pas à aller les exprimer auprès de Linky, parce que Linky s'en contrefiche, eux, ils ont des actionnaires. Alors les actionnaires, par exemple, hein, ce que le collectif nous a expliqué, c'est que pour pouvoir récupérer ces données des compteurs Linky, il y a énormément de contrats qui sont passés de téléphonie mobile, puisqu'après tout ça passe par le 4G. Et puis Enedis a passé des contrats de plusieurs centaines de millions d'euros avec des opérateurs téléphoniques, par exemple, pour récupérer ces données. Alors après, ben voilà, nos collectifs, eux, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, et ils se battent avec énormément de dignité. Nous, on est là pour les aider, mais vraiment, c'est pas nous qui menons la bagarre. C'est eux qui font ça avec beaucoup d'organisation, de dignité, d'intelligence collective. Et on sera à leur côté tant qu'il faudra mener cette bataille.
Bien, merci Jean. Je pense qu'effectivement, sur cette affaire de compteur Linky et compteur communicant de manière générale, on aura l'occasion d'y revenir. Hein. Aurélie a annoncé dans son agenda déjà d'autres réunions publiques. Alors on va poursuivre la revue de presse. Hein. On ouvre maintenant Liberté Hebdo. Alors cette semaine, dans Liberté Hebdo, un article concernant la grève des mineurs de 1948 avec un titre significatif, « Un chemin de croix qui n'en finit pas ». Donc c'est une affaire juridique. Hein. Les mineurs grévistes de 1948, il y a donc 70 ans, réclament réparation pour avoir été illégalement licenciés. En 2014, la loi dite Taubira leur ouvre droit à 30 000 euros pour le mineur et sa conjointe et 5 000 euros par enfant. Mais la NGDM, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, refuse de verser ces sommes aux enfants de mineurs dont les deux parents sont décédés à l'heure de l'ouverture du dossier. Et vous imaginez bien que 70 ans après, ils ne sont plus très nombreux, les mineurs qui étaient actifs en 1948. Ils ne sont plus très nombreux en vie, les mineurs qui étaient actifs en 1948. Au total, ce sont donc 78 demandes d'indemnisation qui ont été satisfaites sur un total de 263. On peut rapidement faire la différence. L'affaire est donc en justice. La NGDM continue de traîner la patte. Pour les descendants de ceux que l'on appelle les bannis de 48, le calvaire continue. Un article maintenant dans La Voix du Nord, le lendemain de la mobilisation interprofessionnelle du 9 octobre. On reparlera sans doute de cette journée avec notre invité, Jean Létocard. L'article de La Voix du Nord évoque la mobilisation des lycéennes et lycéens et les personnels enseignants et surveillants du lycée d'Archicourt à Hénin-Beaumont. 100% de grévistes chez les surveillants et plus de la moitié chez les enseignants. Le ras-le-bol est nettement perceptible dans ce lycée de près de 2000 élèves, dont un grand nombre vient de REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Les manques de moyens sont criants. Manque de personnel pour accueillir les élèves en situation de handicap, classe à 30-35 élèves, diminution du nombre d'agents techniques. Je cite le journal. On est obligé d'être nous-mêmes solidaires avec les surveillants. Ils ne sont que 4 assistants d'éducation par demi-journée pour des missions qui vont bien au-delà de la simple surveillance. Il est la grille où nous devons être 2 pour contrôler tous les carnets avec le plan Vigipirate. Les permanences, le bureau, la cantine, les couloirs. Des fois, on doit abandonner certains postes. Du coup, dans les couloirs, il y a davantage de dégradation. Si c'est la cantine, elle est plus sale, il y a de la nourriture écrasée. Autant de travail en plus pour les agents techniques, dont le nombre a diminué drastiquement l'an passé. La CPE, quant à elle, accusait déjà 40 heures supplémentaires non payées et non récupérables, entre la rentrée et le 24 septembre, soit des semaines de 48 heures environ. Et encore, il n'y a pas les conseils de classe. Dans ce contexte, le personnel du lycée d'Archicourt souhaite être reçu par le rectorat. Et on va terminer cette revue de la presse locale par Liberté Hebdo et une chronique au titre évocateur « Retraite, une main de fer dans un gant de velours ». Liberté Hebdo évoque la méthode du gouvernement Macron. Alors que concernant le code du travail, la SNCF, le logement, la santé et les services publics en général, le gouvernement passe en force, concernant les retraites, c'est la méthode douce qui est envisagée. Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de droite, est nommé haut commissaire à la réforme des retraites et mène la concertation depuis 6 mois. On ne critique pas les syndicats et on estime même que la position de la CGT est compréhensible. Ceci étant, sur le fond, c'est bien un système à points qui est prévu, avec dans les faits un départ en retraite à 63 ans. On pourra même travailler indéfiniment si on considère que sa pension est insuffisante. Bref, il y a concertation, mais la réforme qui sera votée l'an prochain sera celle que le gouvernement a prévue. Dans ce contexte, il importe que toutes et tous, actifs et retraités, ne nous laissions pas endormir par la pseudo-concertation. C'est uniquement par nos luttes que notre voix pourra être entendue.
C'est le moment de faire une petite pause musicale. Dans Micro Rebelle Hebdo, on va écouter du reggae dub. Donc le groupe s'appelle The Dub Vegans et le titre c'est Southside Dub Skanking. toujours Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà. C'est une émission que vous pouvez écouter, télécharger, podcaster sur microrebelle.fr, notre site internet. C'est également diffusé sur Radio PFM à Arras 99.9 et Radio Plus à Douvrin sur le 104.3. Avant de donner la parole à notre invité, Jean Létocard, on va écouter quelques extraits des témoignages enregistrés lors de la manif lilloise et arrageoise du 9 octobre, c'est-à-dire mardi dernier.
Ce qui mobilise aujourd'hui, c'est tout simplement contre la casse sociale de Macron. Il attaque partout, les vieux, les jeunes, les salariés, les fonctionnaires, nos camarades cheminots. Tout le monde en prend plein sa gueule. Si le moment de l'unité ne vient pas maintenant, on va tous y perdre. Et là, je suis très contente parce que la manif à Lille, il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de jeunes. Pour moi, c'est le début d'une belle mobilisation, à mon avis. Bah, je pense que là, la mobilisation va continuer. Il y a bientôt le plan retraite qui va commencer à sortir. Il y a les impôts aussi, le prélèvement à la source. Les pompiers aussi, en ce moment, se mobilisent. Je pense que tout le monde se rend compte que la politique que mène le gouvernement Macron, c'est vraiment pas la politique qu'il faut pour les travailleurs et les travailleuses. En réalité, je pense que Macron, toutes ses déclarations vont dans notre sens finalement, parce que toutes les dégueulasseries qu'il peut dire sur les retraités qui sont des privilégiés, les chômeurs qui doivent traverser la rue pour trouver du taf, je pense sincèrement que ça choque l'opinion publique aussi. Et là, l'enjeu, ça va être que tous les secteurs travaillent ensemble, vraiment. Qu'importe Parti communiste, France insoumise, CGT, Solidaire. Au bout d'un moment, on est tous dans le même camp. Et il va vraiment falloir qu'on s'entende et qu'on mobilise plus largement. Sinon, on va rester en bataille de chapelle et le mouvement va crever. Et ça sera de notre faute.
Je viens ici pour lutter contre la sélection et les réformes qui peuvent être mises en place par le gouvernement actuel. Je pense qu'il faut continuer... Et que tout le monde est encore prêt à aller de l'avant et à se battre contre toutes les réformes qui peuvent être faites. Et je pense qu'il faut qu'on continue et que le mouvement va reprendre, j'espère.
En gros, maintenant qu'on a vu ce que c'était le désastre de Parcoursup en direct et qu'on y a assisté officiellement, bah, je pense que les choses vont changer maintenant parce que les étudiants, ils ont compris, les lycéens, ils ont compris, les parents de ces lycéens ont compris et... Maintenant, ça devrait bouger un peu plus que l'année dernière.
Donc, je suis ici plus particulièrement pour la cause étudiante et universitaire. On estime qu'à l'université, on manque de moyens au niveau des profs. On manque de chargés de TD, sont dans la précarité pour la plupart d'entre eux. Et ça joue sur notre condition d'études aussi. On veut juste continuer à faire entendre notre voix par rapport à ce projet qui est passé malgré l'année dernière les fortes mobilisations. Le gouvernement ne nous a pas entendus, donc on continue à se mobiliser pour lutter même plus globalement contre ce système un peu trop autoritaire à mon goût en tout cas de ce gouvernement.
Maintenant c'est l'humain après et l'argent d'abord, quoi. Je sais pas comment dire trop la situation. Après l'espoir je pense qu'il faut le garder, hein. Sinon on serait pas où on est actuellement. Quoi. Maintenant c'est sûr qu'on est frustré. On est frustré. Après, il y a des attaques de partout, notamment tout ce qui est l'action syndicale, les militants syndicaux. Après, on espère toujours qu'un jour ou l'autre, le français travailleur, comme tous les Français, se mobiliseront et qu'on arrive à faire fléchir le gouvernement. Pour l'instant, c'est pas gagné, j'avoue, mais on garde espoir.
Qu'est-ce qui manque un peu dans la mobilisation ?
Rapport de force, hein, il manque le rapport de force, il manque... Manque les gens, je sais pas dire comment, il manque la mobilisation.
Bah, contre toutes les mesures du gouvernement Macron, que ce soit au niveau des retraites, de la CSG, des suppressions de postes dans l'éducation nationale, de la guerre contre le fonctionnariat, contre les services publics, voilà, et pour l'ensemble des camarades, qui, pour le secteur médical également, médico-social, et dans cette logique budgétaire qui découle tout simplement de Bruxelles. Hein, le petit copiste de Bruxelles, c'est Macron.
Donc là, il y a un ras-le-bol total parce que bon, on travaille à flux tendu, on a de moins en moins de personnel. Moi, dans mon service, bon, on va être il y a 5 départs en retraite qui ne seront pas remplacés pour l'instant. Donc on est 12 moins 5. Voilà. Et on a toujours plus de travail. On se demande s'il y aura vraiment encore un service public de proximité dans les années à venir. C'est ça la crainte.
C'est un premier rendez-vous intersyndical et ça c'est important contre la politique du gouvernement Macron, politique en faveur des riches exclusivement, qu'on voit les attaques contre les retraités, qu'on voit les attaques contre les services publics. On ne devrait même plus parler de réforme, on devrait parler de dynamitage complet, de la protection sociale, etc. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de se répéter depuis un certain temps, mais parce que rien ne change. Tout va toujours dans ce sens de favoriser les gens les plus aisés, de détruire tout le tissu social, de détruire la cohésion sociale et de créer un pays à plusieurs vitesses. Et pour cela, c'est absolument pas acceptable.
Voilà, j'aimais beaucoup cette chanson que j'ai pu enregistrer mardi dernier. À Lille, il y avait également des extraits de la manif arrageoise, extraits enregistrés, témoignages enregistrés par Nicolas Bunier de Radio PFM à Arras. Vous pouvez entendre l'intégralité de ce reportage sur notre site internet microrebelle.fr à l'article Manif Lille 9 octobre. Tout simplement. On va maintenant donner la parole à Jean Letocard. Pour rappel, tu es infirmier anesthésiste, délégué du personnel CGT à l'hôpital de Lens, adjoint au maire communiste à Avion. Alors, je ne sais pas si cette année, qui a été émaillée d'énormément de mobilisations, je ne sais pas si tu as participé aux manifestations. On entend parler ici encore d'unité, de convergence, de ras-le-bol. On commence à sentir poindre aussi l'exaspération. Pourtant, au niveau de la mobilisation, on n'atteint pas vraiment un rapport de force qui inquiète le gouvernement. Quel est ton sentiment sur les mobilisations, sur sa forme, sur les modes d'action ?
Oui, alors je vais faire le lien avec ce qu'on a dit sur les mineurs tout à l'heure, quand on est un petit peu en train de nier leur histoire combattante en refusant les indemnités aux familles. Ça fait des décennies qu'on essaie d'expliquer aux gens que ça sert à rien de se bouger, parce que de toute façon on changera rien, et ils avancent comme un bulldozer. Ça a été très marqué en 2003 avec la réforme des retraites avec Juppé, et malgré les mobilisations hallucinantes qu'il y avait eu, hallucinantes dans n'importe quel autre pays européen, le gouvernement serait tombé pour ça. Ça avait continué comme si de rien n'était, et puis ils ont commencé à démanteler les systèmes de retraite. Et puis, moi je fais partie d'une génération, comme j'ai la quarantaine, où mes collègues de travail, depuis qu'ils sont au travail, depuis une vingtaine d'années, jamais ils ont gagné une lutte, parce que, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Alors le gouvernement peut être content en disant « oui, il n'y avait pas tant de monde que ça dans les rues, etc. » Moi, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose. Hein. Ça ne veut pas dire que les gens sont contents, ça veut dire qu'ils sont tellement mécontents qu'ils considèrent que ça ne sert plus à rien d'y aller. Et ce qui va se passer, et ce qui se passe depuis quelques élections, c'est qu'ils attendent patiemment l'échéance électorale suivante pour faire la pire des choses qui soient, c'est-à-dire ils n'aiment pas le gouvernement actuel, ils s'en vont donc aller voter pour les fascistes. Et c'est un peu ce qui se passe dans toute l'Europe. Et puis, on a l'impression que ça sert de leçon à personne, quoi, d'élection en élection. Ils continuent leur politique ultralibérale, et puis ils attendent patiemment qu'à l'élection suivante, on croise tous les doigts, et puis qu'on se dit « tiens, c'est bon, les fascistes ne seront pas encore élus cette fois-ci ». Sauf que nous, on est dans un territoire où on sait ce que ça veut dire, quoi. On est dans notre circonscription à Avion, une circonscription où on a récupéré un député Front National qui n'a jamais participé à aucune lutte, qui n'a jamais appuyé quelconque mobilisation, qu'elle soit politique, syndicale, enfin au profit des habitants. Et pourtant, il a réussi à être élu juste sur ça, juste sur cette colère qui essaie de s'exprimer par des manifestations, et puis qui n'est jamais, jamais, jamais entendue. Alors, c'est bien, les macronistes peuvent se féliciter de cette faible mobilisation. Moi, en tout cas, ça m'inquiète énormément pour la démocratie.
Alors on va rester dans la contestation, plus localement cette fois, dans le bassin minier et dans le secteur médical, où le mal-être au travail est une nouvelle fois ressorti, début octobre à la polyclinique Riomont, où est particulièrement déplorée une dégradation des conditions de travail. Donc toi qui travailles dans le secteur médical, quelle est la réalité de cette souffrance dans le milieu médical et quelle est l'ampleur de la contestation dans le secteur?
Ah, le En tout cas, l'ampleur du mal-être est quelque chose sans précédent. Je pense qu'il faut vraiment comparer ça avec ce qui se passait chez France Télécom à l'époque où il y a eu cette vague atroce de suicides. Il y a des hôpitaux, la PHP par exemple, les hôpitaux parisiens, malheureusement sont à la pointe de ce triste record, c'est que il y a des médecins qui se suicident au travail maintenant, dans leur bureau, après leur consultation, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est vrai pour toutes les catégories de personnel à l'hôpital. Alors, pour revenir à ce qui se passe à Hénin-Beaumont, à Liévin, à Lens, à Arras, voilà, ce qui se passe, c'est que on fait croire à chaque fois qu'on renforce un hôpital en lui transférant un certain nombre d'activités. Donc, l'hôpital prend sur lui. C'est l'histoire de la pneumologie lensoise. Hein. On a fait croire à Lens qu'il fallait changer des activités parce que tout le monde n'était pas capable de tenir tous les bois en même temps. Finalement, le projet ne tenait pas debout. Les pneumologues ont dit, nous, si c'est pour aller travailler à Lens avec un projet qui ne tient pas debout, on quittera l'ANAC et puis on ne viendra pas sur Lens. Et puis, un peu comme ce qu'on vient de dire, hein, avec les manifestations de cette semaine, ils y sont allés quand même dans leur projet de transfert d'activité. Les pneumologues, évidemment, ne se sont pas retrouvés dans ce nouveau profil de poste. Ils ont quitté la boutique. Et puis, finalement, il n'y a plus de pneumo à l'ANAC. Et puis, il n'y en a plus non plus à Lens. Et puis, finalement, il n'y en a plus nulle part. Et les gens meurent tranquilles chez eux. Alors, c'est un peu ce qui se passe à Liévin et à Hénin-Beaumont en ce moment. C'est-à-dire qu'on leur a fait croire que les transferts d'activité, c'était fait pour renforcer d'autres secteurs de compétences pour eux. Et puis, finalement, on n'a rien renforcé du tout. On a mutualiser les pénuries. Et ce qui se passe, c'est que globalement, depuis 2005, il y a 60 000 lits d'hospitalisation qui ont disparu en France. C'est plus de 1200 lits dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ça crée des conditions de travail qui sont insupportables. C'est du travail à la chaîne constamment. C'est un infirmier des urgences fait par poste 120 entrées sur 8 heures, donc vous faites le calcul, hein, ça lui fait même pas 5 minutes pour malade, pour l'accueillir, faire son dossier administratif, voir quel est le problème et l'orienter dans un secteur des urgences. C'est inhumain pour lui, c'est inhumain pour le patient et finalement c'est inacceptable pour la société.
On va maintenant aborder le sujet du plan santé, bon, qui prévoit justement certaines mesures pour essayer de pallier à toutes ces pénuries, enfin on va en discuter en tout cas. Donc lors d'une conférence de presse à l'Elysée, donnée le 18 septembre, Emmanuel Macron a présenté le plan santé 2022 porté par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Lutte contre les déserts médicaux, fin du numerus clausus, création de postes d'assistants médicaux, entre autres. C'est un plan qui se dit ambitieux dans le langage un peu mégalo de Macron. La réforme du système de soins devrait restructurer ce système pour les 50 prochaines années. D'abord, peut-être un petit point. Que faut-il en retenir? Quelles sont les mesures qui valent peut-être d'être conservées ou absolument rejetées?
Alors, ces mesures, c'est 54 mesures hein, en réalité sur l'hôpital 2022. Donc on ne va pas les égrener les 54, mais il y a des mesures qui sont symboliques et en tout cas le gouvernement l'a bien perçu et a très largement communiqué. Je pense que la plus symbolique, c'était un des engagements présidentiels de François Hollande, un supplémentaire qu'il a renié parmi tant d'autres, qui était l'abandon du numerus clausus et de la liberté d'installation des médecins. L'abandon du numerus clausus de Macron, il s'accompagne d'aucun moyen supplémentaire pour former plus d'étudiants en médecine.
Est-ce qu'on peut préciser ce que c'est le numerus clausus?
Oui, bien sûr.
En deux mots.
Oui, bien sûr. Le numerus clausus, c'est une invention qui date de quelques décennies, qui dit qu'on forme autant de médecins par an. Voilà, ils passent un concours à la fin de la première année et tous ceux qui n'ont pas le concours sont rejetés de la faculté de médecine. Ce qui permet de contrôler très précisément dès le début des études le nombre de médecins qui sortiront 10-12 ans plus tard. Et dans sa grande folie, les gouvernements successifs ont dit bah, « tiens, moins de médecins, moins de dépenses de santé ». Donc ce numerus clausus qui au départ avait été construit de manière confortable pour répondre aux besoins, a été diminué par 2 dans les années 80, ce qui fait que, 90 précisément, ce qui fait que aujourd'hui, avec toute la génération baby-boom qui est partie en retraite des médecins, On se retrouve dans la pénurie qu'on connaît et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il manque 1000 médecins spécialistes dans le Nord-Pas-de-Calais pour atteindre la moyenne nationale et 270 médecins généralistes pour atteindre la moyenne nationale. Je donne ces chiffres parce que Macron fanfaronnait en disant qu'ils vont créer quelques centaines ou milliers de postes d'assistants médicaux. Rien que pour le Nord-Pas-de-Calais, il nous manque au total 1300 médecins pour récupérer la moyenne nationale. Donc ce n'est pas 4000 assistants médicaux dont on ne sait trop ce que ça va être qui compenseront ce manque.
D'accord. Et pour revenir aux mesures, est-ce qu'il y avait d'autres points? On a entendu parler notamment de la fin de la tarification à l'activité.
Oui, enfin, c'est la fin de la tarification à l'activité. On a essayé tout un tas de systèmes pour dire, voilà, on va changer vos méthodes de financement parce que de toute façon, comme on ne sait pas bien comment vous financer, c'est ça qui fait qu'on a un déficit à la fin. Non, en fait, les dépenses de santé augmentent mécaniquement parce que les techniques évoluent et tous les ans, ce qu'on appelle l'évolution naturelle des dépenses de santé sont à peu près à 4,5% d'augmentation annuelle. Et l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, se contente de, on nous avait dit 0,5, finalement, il monte à 2. On est en tout cas bien en deçà de ce qu'il faudrait pour financer les dépenses de santé. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait s'interroger quand on parle de sous dans la santé. C'est cette rente très facile qu'ont les laboratoires. Il y a Médecins du Monde qui s'est fait censurer une campagne de publicité où il nous expliquait que finalement, un bon cancer, ça rapportait 120 000 euros à un laboratoire. C'est proprement dégueulasse. On a complètement abandonné la recherche publique. On a tout confié à des entreprises qui sont des multinationales américaines parfois, bien souvent d'ailleurs celles qui sont à la pointe, qui font très très bien leur travail en matière de recherche et d'innovation, sauf qu'elles le facturent très très cher leur travail. Et puis nous, on s'est coupé de tous les outils pour le faire à leur place. Alors eh ben voilà, on paye tout ce qu'elles nous demandent de payer. Et puis on a du mal à financer. Et puis après on dit, tiens, il faut changer vos méthodes de financement. On peut faire de la tarification à l'activité, du budget global, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses, on n'arrivera pas à dépenser ce qui est juste nécessaire pour la population.
Alors cette réforme, elle fait suite à un diagnostic de la part du gouvernement qui analyse un manque de coordination, manque d'organisation. Donc il faut le tendre par là qu'au-delà des moyens financiers insuffisants ou pas, il y a une carence organisationnelle du système de soins. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est plutôt un moyen de faire passer la pilule de l'austérité?
Alors c'est à la fois vrai et à la fois faux, c'est-à-dire quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. À partir du moment où les gens ont même pas 30 secondes pour boire un verre d'eau, pour aller pisser sur un poste de travail, je parle des médecins qui voient 200 malades par jour aux urgences, comment est-ce qu'on peut leur reprocher à ces gens-là de ne pas entretenir des liens avec la médecine de ville pour éviter que les gens arrivent à l'hôpital? Les gens sont même plus submergés par le travail. Ils sont, voilà, c'est le lapsus que je voulais utiliser justement, c'est qu'ils sont submergés par le travail. Ils n'en peuvent plus à tel point qu'il y en a un certain nombre qui se suicident. Et c'est pas Jean Les Tocards, le cégétiste ou le communiste qui vous le dit, parce que c'est comme le double effet qui se coule, j'ai les deux défauts à la fois. Il y a une tribune qui vient d'être signée par 300 praticiens hospitaliers qui sont quand même pas des gens qui sont habitués des va-t-en-guerre, quoi. Qui dit le plan santé, on partage un certain nombre de choses sur le diagnostic, sur la nécessité de travailler en partenariat, sur le fait que les gens arrivent aux urgences alors qu'ils ne devraient pas y arriver. Ils vont pas jusqu'à dire que c'est parce qu'il n'y a pas de médecine de ville, évidemment. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait y mettre des moyens et le gouvernement ne veut pas le faire. Mais ces médecins-là expliquent dans une longue tribune, ces gens qui ne sont pas des va-t-en-guerre, je le répète, que ce plan est notoirement insuffisant. Par exemple, sur la psychiatrie, il n'y a rien. C'est simple, dans le plan santé, sur la psychiatrie, il n'y a rien. Je vais vous raconter l'histoire du CMPP d'Avion, c'est-à-dire le centre médico-pédopsychologique, c'est-à-dire qui s'occupe de nos enfants en difficulté, quoi. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il y a 8 postes, normalement, de pédopsychiatres qui sont budgétés. Actuellement, il y a 0,5 équivalent temps plein sur ces 8 postes, parce qu'ils ne trouvent pas de pédopsychiatres, puisqu'on ne les forme pas. Donc on peut faire tous les plans santé qu'on veut, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut former des gens. Nous, on a créé un collectif pour une santé restaurée dans le bassin minier, donc qui se veut le plus large, le plus pluriel possible. Il y a 4 composantes collectives. politiques qui sont représentées, des communistes, des socialistes, des verts et même des UDI qui sont arrivés dans le collectif. Il y a plusieurs syndicats qui ont signé l'appel qu'on a fait. Il y a 11 000 personnes qui ont signé une pétition pour dire voilà, nous, pour nous, la santé, ça tient sur c'est les trois pieds d'un tabouret. Il nous faut une médecine de ville qui soit costaud. Et chacun peut le savoir, hein, je veux dire, il suffit de téléphoner à son médecin traitant pour essayer d'avoir un rendez-vous, et on voit très bien qu'on a le rendez-vous quand la maladie s'est guérie toute seule, parce que ça prend maintenant facilement 3-4 jours avant de réussir à voir son médecin traitant. Le deuxième pilier, c'est un hôpital fort, et là on est complètement à côté de la plaque. Si vous voulez, on pourrait parler de l'hôpital de Lens, comme on vient de parler de celui de Liévin. Hein, les difficultés sont semblables. Et puis, il faut former les gens, parce que si on ne forme pas les gens, ça ne sert à rien d'envisager quoi que ce soit supplémentaire. C'est-à-dire qu'il nous faut un CHU pour le bassin minier. C'est quelque chose qui avait été réclamé depuis 30 ans. On était vraiment à deux doigts de l'avoir. Et puis, pour je ne sais quelle raison électoraliste, quelques politiques du secteur ont dit « il vaut mieux un petit hôpital de Lens tout de suite qu'un grand CHU dans 20 ans ». Et puis voilà, on se retrouve avec cet hôpital trop petit et rien pour former les médecins sur le secteur alors qu'on en manque cruellement.
Justement, tu parles des urgences. Il semble que ce soit aussi la grande oubliée de cette réforme. Il n'y a pas grand-chose pour pallier aux crises des urgences assez répétitives dès qu'il y a une canicule ou dès qu'il y a une épidémie de grippe.
Oui, alors c'est à la fois scandaleux dans la réponse immédiate, mais si on se concentre sur une réponse à long terme... ça serait même pas scandaleux, c'est-à-dire que le problème des urgences finalement n'est pas aux urgences. Moi j'y passe mes journées ou mes nuits lorsque j'y travaille. Les gens qui viennent aux urgences embolisent le système parce qu'il n'y a pas de solution derrière pour les hospitaliser ou parce qu'il n'y a pas de médecine de ville qui puisse prendre le relais. Donc les urgences sont un petit peu coincées entre le marteau et l'enclume, et si le système fonctionnait bien, dans une réponse à long terme, hein, je le répète, les urgences n'auraient aucun problème. Là, la difficulté, c'est que on ne va pas régler tous les problèmes de la médecine de ville, des lits d'hospitalisation qui manquent, etc., en quelques mois. Donc il nous faut une réponse immédiate pour les urgences, et puis on allégera le système, si on peut se permettre de le faire, une fois qu'on aura plus de médecine de ville. Mais là, actuellement, les urgences, la fréquentation des urgences a été multipliée par 3 sur les 5 dernières années. Parce que les gens, ils viennent pas aux urgences nous dire bonjour. Hein. S'ils viennent, c'est parce que vraiment, ils sont obligés. Parce qu'il n'y a aucune possibilité d'accéder dignement à une médecine rapide, efficace. Voilà, parce que les médecins de ville n'en peuvent plus. Hein. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire le travail, c'est qu'ils n'en peuvent plus de le faire leur travail.
Il y a également des voix qui critiquent cette réforme en disant qu'elle n'est pas une réforme structurelle. C'est-à-dire que il y a tout un problème dans le système de soins, et plus particulièrement à l'hôpital, qui est la hiérarchie du pouvoir. Justement, l'hôpital qui est depuis un certain nombre d'années dirigé par des financiers et des technocrates, sans prendre en considération les recommandations des soignants. Est-ce que tu partages cette opinion ?
Oui. Alors, bon, déjà, cette réforme, je ne sais pas si elle est structurelle ou pas structurelle. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une réforme, en fait. Hein. C'est un plan de communication. Il n'y a pas de réforme derrière tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Hein. On supprime le numerus clausus, mais on ne forme pas plus d'étudiants. On verra ce qu'on fait de la T2E, mais pour l'instant, on ne vous dit pas ce qu'on en fait. Et puis, au quotidien, les personnels voient bien que ce n'est pas une réforme, mais un plan de communication. D'ailleurs, ça fait flop. Hein. Ça fait 15 jours, il n'y a plus personne qui en parle dans les médias, à part nous qui approfondissons un petit peu le sujet là aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a un vrai souci de gouvernance. C'est la loi Bachelot qui avait fait ça, la loi HPST, on avait appelé ça un hôpital santé et territoire, et on a viré des conseils d'administration, la représentation du peuple, hein, les conseils d'administration ont dégagé pour être des conseils de surveillance, où les rares politiques qui continuent d'y siéger sont devenus finalement une chambre d'enregistrement. Ça reste là dans un débat d'énarques, d'administratifs, de gens qui viennent de l'École nationale de santé, mais qui n'ont aucun compte à rendre à la population qu'ils maltraitent, parce que ces gens-là, ils sont là sur une nommés par un ministre. Ils changent d'ailleurs à peu près aussi souvent qu'on change de ministre. Ils sont là 3-4 ans. Ils créent des dégâts insurmontables pour le territoire. Et ils ne sont pas là pour les assumer, parce qu'après, ils vont s'en aller, hein, ces directeurs. D'ailleurs, nous, quand on reçoit un nouveau directeur, on se renseigne toujours hein, sur l'endroit d'où il vient et quel a été son parcours.
On se rapproche de plus en plus de ces chasseurs d'emplois là, dans les entreprises privées où des gens arrivaient pour liquider 20% du personnel, puis ils s'en vont, ils changent de direction des ressources humaines. Donc c'est un peu ce qu'on reproche, nous, c'est que, les politiques ont évidemment été dessaisies par la loi de cette de tout système de décision du système de santé, que ce soit localement ou nationalement. Mais en plus de ça, ils s'en accommodent très bien, pour vous dire. Hein. Parce que finalement, quand le personnel se mobilise pour défendre son outil de travail, on peine à en trouver des politiques. Moi, je suis très très fier de la couleur politique qui est la mienne, parce qu'à chaque fois qu'on a fixé un rendez-vous pour défendre l'hôpital, les communistes en étaient nombreux à la sortie de l'hôpital. Je pense que d'autres sont beaucoup plus mal à l'aise, parce qu'ils ont accepté toutes les pilules depuis 20 ans, et puis ils viennent pas nous accompagner hein, le jour où on va avec le personnel défendre leur outil de travail. Et ce bien public pour la population. Parce que le service public de la santé... J'englobe l'ANAC hein, dessus, parce que vraiment les polycliniques de l'ANAC participent très activement au service public hospitalier, et il n'y a pas de dépassement d'honoraires à l'ANAC. Hein, je veux dire, ils soignent tout le monde sans distinction. Hein. Vraiment, on aurait besoin qu'il y ait une mobilisation politique bien plus large que ce qu'elle est actuellement. Hein. Voilà.
Dernière question. Bon, on verra si on a le temps, mais on va dire pour l'instant que c'est la dernière. Y a-t-il des mobilisations à prévoir dans le secteur hospitalier suite à cette réforme ? Et aussi, question double, quelle forme peuvent prendre ces mobilisations, sachant qu'avec le manque de personnel, on en arrive à l'impossibilité de poser un préavis de grève, parce qu'il faut assurer la continuité des soins dans les hôpitaux. Et deuxième élément, on voit apparaître des formes extrêmes de lutte, comme des grèves de la faim, ça a été le cas notamment en psychiatrie cette année. Donc voilà, quelle forme pourrait prendre la contestation s'il y en a une, et s'il y a encore de l'énergie pour se battre
Oui, alors il y a énormément de formes de contestation possibles, mais vous avez raison de dire que la grève est un moyen de contestation qui est extrêmement compliqué à l'hôpital. Moi, dans mon service, on ferme, je travaille au SMUR, hein, on ferme des équipes de SMUR de manière quasi quotidienne parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire tourner les équipes. Et le jour de la grève, tout le monde est réquisitionné. Il y a bientôt plus d'équipes disponibles les jours de grève que les autres jours. Parce que ils utilisent comme ça l'effectif minimum inscrit dans la loi, et puis les autres jours par contre pour fermer les équipes parce qu'il n'y a pas de personnel, on s'en fout, dès le lendemain de la grève on remet tout le monde à sa maison parce qu'on n'a pas les moyens de faire tourner les équipes. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Ceci dit, les personnels ne lâchent pas. Je pense que la mobilisation, c'est essentiellement, et c'est vraiment très important, faire prendre conscience aux gens que le service public, c'est la dernière fortune de ceux qui n'ont rien. Et on informe et on informe encore. On a un groupe Facebook, on a un collectif, on fait signer des pétitions. Et vraiment, ça fait bouger les lignes parce que ça force les politiques qui sont un petit peu timides à prendre leurs responsabilités. Quand on arrive, le collectif pour une santé restaurée dans le bassin minier, qui avait été à l'époque à l'initiative du sénateur Watrin, lorsqu'on arrive avec 11 000 personnes qui ont signé la pétition, avec un texte qui est très clair, hein, je veux dire, on n'a pas menti aux gens, hein, ils savent ce qu'ils signent, et qu'on arrive auprès des interlocuteurs, je peux vous dire qu'on a rencontré le préfet, le vice-président de région, le président du département, pour discuter de la santé et de ce qu'on pouvait faire pour améliorer la santé sur le territoire. Et on est reçu, pas forcément à bras ouverts, mais en tout cas avec toute la légitimité des 11 000 signatures qui nous poussent à rentrer dans ces bureaux. Voilà. Pour les formes de mobilisation. Après, effectivement, il y a des formes de mobilisation extrêmes. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, ça ne me rassure pas de ne pas savoir que les gens ne défilent plus par milliers dans les rues pour défendre leur pensée, leur conviction, leur point de vue, et de savoir qu'ils finissent à 3-4 à faire une grève de la faim, ou à 100 ou 200, ou la majorité, comme c'était le cas aux dernières législatives, par voter Front National. Parce que, un, ça ne défend rien du tout. Ça, c'est le premier truc. C'est dangereux pour nos démocraties. Et en plus de ça, ça n'arrangera absolument pas les problèmes qui sont censés défendre initialement. Quoi.
Bah, merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Peut-être, bon, c'est pas vraiment un rendez-vous, mais si la contestation pourrait s'organiser à la mi-novembre, apparemment, il y a peut-être.
Oui, dans cette grande communication, dans ce plan de communication, puisque il s'agit pas pour l'instant d'une une réforme, hein, le plan de santé 2022. Voilà, donc dans cet exercice de communication positive à tout prix qu'on essaie de nous faire, ils vont essayer de nous faire croire que l'hôpital de Lens, nouvelle version avec 300 lits en moins, ça va être bien mieux que celui actuellement, parce que finalement, moyen de lits, plus, mieux c'est pour eux, hein, visiblement. Donc ils vont essayer de nous faire croire tout ça, et il y a donc des inaugurations à faire. Hein, donc la pose de la première pierre devrait être posée en grande pompe par le président de la République incessamment. Oui.
Voilà, une bonne date à retenir pour organiser une mobilisation. Lucien, je te laisse la parole pour conclure.
Oui, moi j'ai vraiment été très intéressé par cet entretien. Hein. C'est vraiment ce type d'échange et d'éclairage dont on a besoin effectivement pour nous mobiliser davantage et effectivement faire reculer un petit peu toutes ces politiques plus austéritaires les unes que les autres. Alors à Micro-Rebelle, on essaie d'y contribuer. Notre émission se termine maintenant. Hein. Merci à nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés. On rappelle, Luc l'a dit, hein, micro-rebelle.fr, hein, en podcast, en téléchargement, toutes nos émissions sont en ligne. N'hésitez pas par ailleurs à nous solliciter pour des reportages, des chroniques, des débats radiophoniques. On termine tranquillement par de la musique. On vous dit à la semaine prochaine à toutes et à tous, vendredi prochain dès 18h.